Alors, gender et mariage homosexuel, revendication légitime ou retour au mythe de l'androgyne ? L'Assemblée nationale a adopté mardi 21 janvier 2014, vous voyez, ça ne peut pas être plus récent au niveau de l'actualité, un amendement supprimant du droit français le terme « en bon père de famille ». Non, mais c'est passé, hein. C'est une loi où maintenant on ne va pas pouvoir dans les textes du législateur trouver la mention « en bon père de famille ». Hein. Cette expression présente encore plus d'une dizaine de textes de loi datant dans le code du droit civil de 1804. Cet amendement a été soutenu par l'Assemblée des députés Écologie Les Verts au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects aussi bien humains que sociaux. Pour les députés, l'expression est discriminatoire vis-à-vis du genre qui sous-entend que la femme n'est pas capable de gérer. Il estime que ces termes font l'amalgame entre un lien affectif, éducatif et la notion de bonne gestion, ce qui n'a rien à voir. Les députés dénoncent une expression désuète qui rappelle une tradition patriarcale. Point intéressant. L'égalité aurait voulu que la notion de bon père de famille soit remplacée par la notion de bon père et bonne mère de famille. Mais l'amendement proposé a préféré faire disparaître cette notion. Il n'y a donc plus de notion de père, plus de notion de mère. Les autres articles de cette loi ne laissent aucun doute. Derrière ces arguments pseudo-égalitaires, il s'agit bien d'une nouvelle attaque dont l'objectif est de détruire tout ce qui touche à la famille traditionnelle. À défaut de pouvoir changer le réel, le législateur essaie de promouvoir l'égalité des sexes pour tenter de forcer une société qui ne la réalise pas spontanément. Pour ces gens-là, la solution est simple. Si le réel ne correspond pas à leur fantasme, il faut changer le réel. Il faut changer la vie, était déjà, vous vous souvenez, le slogan de Mitterrand dans sa campagne de 81. Ce slogan était tiré d'une saison en enfer de Gérard de Nerval. Vous voyez que c'était déjà tout un programme. Alors, vers un neutre systématique à la place du masculin-féminin. On pourrait se demander jusqu'où sont capables d'aller nos députés pour faire disparaître toutes les notions introduisant une quelconque référence à l'homme, la femme, le père ou à la mère. Ainsi, en février 2013, la députée PS de Paris, Sandrine Mastier, s'était déjà élevée contre l'école maternelle, tenez-vous bien, mot jugé sexiste. Elle souhaitait remplacer maternelle par un nom neutre, qui repositionnerait l'école dans son rôle éducatif différent de celui des parents. Donc ce genre de proposition a trois buts. Promouvoir la théorie du genre, du gender, donc de l'indécision et du neutre. Refuser aux parents le droit de contrôler l'éducation que reçoivent leurs enfants, comme cette proposition de loi pour supprimer l'école à la maison. Et troisièmement, affirmer le droit pour l'État de juger ce qui est bon pour les enfants à la place des parents. Tenez-vous bien, dans cette perspective-là, les enfants appartiennent à l'État. Alors, on va essayer, là c'est si vous voulez, la face visible de l'iceberg, hein, parce que c'est, on entend ça maintenant tout le temps, si on veut être un peu attentif, les actualités nous rabâchent de ça. Et on a au fait de montrer ceux qui réagissent à cette théorie du genre comme des gens véritablement passéistes, traditionalistes, voire fascisants. Mais d'où vient cette théorie? Voici ce que dit Patrice André, juriste et essayiste, spécialiste du droit public. La théorie du genre, aussi appelée étude de genre, se base sur la dissociation du sexe physique ou biologique de l'orientation sexuelle. Selon cette théorie, l'hétérosexualité n'est pas innée, mais est un acquis culturel imposé par l'éducation et par la société dans laquelle on grandit. Cette théorie prend ses racines dans le féminisme. Alors vous vous souvenez que Simone de Beauvoir, qui était une chantre du féministe, une des premières, affirmait « On ne naît pas homme ou femme, on le devient. » Donc il y avait comme quelque chose qui niait déjà, à travers ce que disait Simone de Beauvoir, la nature sexuée, hein, parce qu'on avait une volonté de devenir homme ou femme. Mais c'est donc, voilà. Elle pensait surtout au rôle subalterne que la société attribue à la femme. La théorie du genre va beaucoup plus loin. Il s'agit d'expliquer aux jeunes que bien qu'ils soient physiquement masculins ou féminins, il leur appartient de définir leur propre orientation sexuelle. Elle-même susceptible de varier au cours de la vie. La théorie du genre, ou gender studies, est née aux États-Unis dans cette version-là, dans les années 70. Nous verrons tout de suite après combien ses racines sont beaucoup plus profondes. Elle postule que le désir érotique est indépendant du genre biologique de l'individu, qui est donc libre de choisir son orientation sexuelle. Ainsi, elle cherche à nier ou relativiser la différence et la complémentarité des sexes. La différence psychique entre hommes et femmes serait une pure construction sociale. On voit qu'il s'agit avant tout de la question de l'homosexualité. La théorie est en effet promue par les activistes homosexuels, par lesquels l'idéal recherché, c'est que l'on puisse se marier avec une autre personne sans se soucier de son sexe biologique. Mais nous verrons que, en fait, ces lobbies homosexuels sont instrumentalisés beaucoup plus profondément, on en dira deux mots. Ils maintiennent que l'identité sexuelle biologique est seulement physique et ne détermine pas le désir sexuel. La traditionnelle complémentarité de l'homme et de la femme est ainsi remplacée par une liberté absolue de l'orientation sexuelle. L'indifférence entre les hétéros, les homos, les bi, les trans devient la norme. C'est le désir qui détermine l'orientation sexuelle et lui seul. Cela conduit à une nouvelle conception de la personne, libérée non tant de gênantes contraintes morales que du poids insupportable qu'impose la condition physique et limitée finalement d'être une homme, un homme ou une femme. Alors, nous voyons cette émergence ces 10 dernières, ces 20 dernières années, peut-être 30 également, de cette théorie du gender qui attaque tous les pays occidentaux. Comment se fait-il que cette théorie du gender soit devenue en quelques années un phénomène touchant toute la société occidentale, une véritable culture mainstream? Ça veut dire hégémonique. La culture mainstream, c'est étudier là-dedans, enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde. En fait, on a des véritables appareils qui permettent de diffuser une pensée à l'échelle planétaire à travers des films, à travers des artistes de variété, etc. Et finalement, cette pensée inonde la planète. Chacun la reçoit et se croit original en la reproduisant dans nos... Alors ça touche bien entendu les plus jeunes à travers les films, à travers les modes, etc. Donc mainstream, c'est véritablement une volonté hégémonique hein, d'avoir un pouvoir sur la pensée du monde à travers donc, la médiation de ces choses-là. Alors, cette culture s'est imposée avec des moyens médiatiques financiers et politiques défiant toute concurrence. Aux USA, Barack Obama tente de court-circuiter l'opposition des États en imposant le mariage homosexuel au niveau fédéral via la Cour suprême, avec le soutien de nombre de politiciens conservateurs et de multinationales comme Apple, Microsoft, Goldman Sachs, entre autres. Donc vous voyez, cette culture-là, finalement, est diffusée avec des moyens considérables. Certaines entreprises américaines menacent même de couper leurs subsides aux ONG et associations qui ne se rangeraient pas sous la bannière du mariage homosexuel. En France, ce ne sont pas, comme nous pouvions l'imaginer, les membres riches et influents du lobby LGBT, hein, ce qui veut dire lesbienne, gay, bi et trans, qui influence les groupes politiques partisans de la loi sur le mariage entre gens du même sexe, mais l'inverse. Ces gens-là sont protégés. Quand on voit les subsides qui sont donnés aux femelles, aux, etc., c'est absolument incroyable. Voilà. Depuis des années, nos gouvernements successifs ont accordé de très généreux subsides, et porté au pinacle médiatique quelques-uns de ces représentants les plus tapageurs. Depuis les années 70, l'univers de la musique de variété ne cesse d'avoir pour idole des personnalités d'apparence androgyne. David Bowie, Marilyn Manson, Nicolas Sirkis, le chanteur du groupe Indochine, Bill Kaulitz, chanteur du groupe Tokyo Hotel, Prince. Hein. Et donc vous voyez ces personnes-là qui sont ambivalentes. J'ai oublié Michael Jackson, hein, avec ses allures très efféminées. Et là, il y a une transgression homme-femme, mais aussi noir-blanc. On ne sait plus. Tout est mélangé à dessein d'indifférenciation. Alors, il nous faut creuser les origines mythologiques. C'est toujours très important de voir qu'est-ce qu'il y a au fondement de cela. Le mot androgyne vient du grec aner avec le génitif andros, qui donne le prénom André, qui veut dire viril d'une certaine manière. Hein, voilà. Et donc signifiant homme. Et de. Alors, comment tu prononces ça en
Guné,
qui va donner gyné, hein, gynécologique, etc. Donc, voilà, qui est la spécificité féminine. Le mythe platonicien de l'androgynie est relaté par le personnage d'Aristophane dans Le Banquet. Alors, voilà ce qu'Aristophane dit dans Le Banquet. Jadis ne vivaient que des androgynes formés de deux êtres de sexe opposé, accolés l'un à l'autre. Forts de leur double nature, ils voulurent défier les dieux, et Zeus décida de punir les androgynes en les séparant en deux. Ils donnèrent naissance aux êtres humains tels que nous les connaissons aujourd'hui. Dans cette mythologie, au commencement, les êtres humains étaient doubles, mâle-mâle, femelle-femelle, et l'androgyne formé de l'un et de l'autre. Ayant provoqué la colère des dieux, alors regardez ce qu'il y a en gras là, que j'insiste, s'alarmant de leur potentiel. Comme si précisément l'être androgyne avait un potentiel supérieur à quelqu'un qui est identifié comme homme ou identifié comme femme. Lui a un potentiel supérieur puisqu'il a les deux. Donc ces androgynes furent punis par Zeus qui les sépara chacun en deux moitiés. Ainsi, chaque moitié, recherchant l'autre, s'enlace avec elle, s'embrasse et meurt triste, ne pouvant se réunir. Si les choses devaient rester ainsi, les humains mourraient. Or Zeus, pour avoir toujours l'amour de son sujet, remet les organes génitaux sur le devant, formant les êtres humains actuels. Donc nous sommes dans la mythologie grecque, et ce mythe explique donc le phénomène amoureux, hein, où on va rechercher sa moitié. Voilà. Mais il existe aussi une origine ésotérique et occulte. Et c'est précisément ce qui va nous intéresser peut-être un peu plus ce soir. Cette origine ésotérique et occulte. Alors, le grand romancier du 19e, Balzac, a réalisé son roman qui s'appelle Séraphita à partir d'un personnage androgyne directement issu des théories de Swedenborg. Alors là, ça commence à nous intéresser parce que Emmanuel Swedenborg, qui est né en 1688 et mort en 1772, est né à Stockholm et c'était un scientifique qui avait vraiment explorer pratiquement tous les domaines de la science de son époque. Et puis en plus, il était polyglotte, donc quelqu'un d'une envergure considérable. Mais un peu plus dans son âge avancé, il a commencé à ressentir des illuminations mystiques. Et en 1743, et pas 943 comme je l'ai noté là, il communique avec le monde des esprits et acquiert des dons de voyance. Il est considérer ce Swedenborg comme un grand initié dans le monde des sciences occultes. Il y a quelques fautes. Dans un château. Donc, voilà cette histoire que relate Balzac dans son roman Sefarita, s'inspirant de Swedenborg, dans un château de Norvège situé près du fjord Stromfjord. Alors là, c'est un peu compliqué de parler. Stromfjord. Séraphitus, un être étrange et mélancolique, semble cacher un terrible secret. Il aime Mina et il est aimé d'elle, qui voit en lui un homme. Mais Séraphitus est aussi aimé par Wilfried, qui le considère comme une femme, Séraphita. En réalité, Séraphitus Séraphita est un parfait androgyne, né de parents acquis à la doctrine de Swedenborg, qui vise à transcender la condition humaine. Nous y sommes. Et dont Séraphitus Séraphita est l'exemple parfait. Immensément érudit, doué de facultés dépassant le commun des mortels, il mène une vie solitaire et contemplative. Mais cet être quasi céleste rêve de connaître l'amour parfait, celui qui consiste à aimer conjointement deux êtres de sexe opposé. Finalement, sous les yeux effarés de Mina et de Wilfried, l'être total se transforme en séraphin et monte au ciel. Vous voyez, nous sommes là dans un processus initiatique. Alors, nous allons aller chercher encore plus loin dans cette perspective de l'androgynie dans les sciences occultes et particulièrement dans l'alchimie. Nous retrouvons dans les principes alchimiques cet être total, cet être pleinement initié qui dépasse toute dualité, toute loi morale, accomplissant la promesse du serpent. Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors, nous avons quelques symboles alchimiques sur la page suivante. Et la figure symbolique qui est en haut s'appelle le rébis. De res, nature, et bina, double. Cette figure symbolique a été publiée par Basile Valentin, un adepte de la Rose-Croix, dans le traité de l'Azote en 1659, puis reprise sans cesse depuis. Elle représente dans la symbolique alchimique le mercure double, l'androgyne ou l'hermaphrodite. Elle représente l'œuf philosophique et l'œuf cosmique dont la séparation en deux a la manifestation par la polarisation de l'unité première. Donc vous voyez, il y a une unité première, mais qui est dans cette androgynie, dans cette rébis, cette nature double. Ce rébis représente un personnage couronné de deux têtes, l'une masculine, on ne le voit pas très bien sur le schéma, mais et l'autre féminine. Dans la mythologie grecque, le mâle tirait son origine du soleil, la femme de la terre et l'espèce mixte de la lune. C'est pour ça que, vous voyez, il met ses pieds sur la lune. Vous voyez que là, il y a des inversions de perspective totales par rapport à la symbolique de l'Apocalypse et de Marie qui est debout, hein, voilà. Un oiseau symbolisant le principe immuable par rapport à la manifestation mouvante se tient immobile en bas à droite. La main droite tient un vase d'où émergent trois serpents. Donc on voit les serpents qui reviennent là. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit sur les serpents. Le serpent central symbolise l'axe vertical ou axe du monde, autour duquel s'enroulent en sens inverse les deux énergies de la force cosmique, le yin et le yang. La lune, sur laquelle se tient l'androgyne, indique sa domination sur les eaux inférieures, caractéristique du monde de la dualité. L'arbre qu'il tient à sa droite décrit les 7 degrés de l'initiation hermétique. Les 6 premiers représentent des visages hommes et femmes, disposés de part et d'autre du tronc, car ils sont encore dans la dualité. La connaissance suprême est symbolisée par le soleil au sommet de l'arbre qui indique que l'initié a réintégré l'unité primordiale. Nous retrouvons la même perspective dans les 7 tomes d'Harry Potter, symbolisant les 7 phases de l'opération alchimique. Il s'agit donc d'une initiation sexuelle derrière les images évoquées. Nous verrons qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, peut-être nous ne verrons pas ça ce soir, mais précisément dans les héros d'Harry Potter, et notamment Dumbledore et de son homosexualité révélée à la dernière étape. C'est la même symbolique avec l'androgyne debout sur le dragon. On a vous voyez le dragon, hein, debout sur la... maîtrisant ainsi les forces de la nature et tenant de sa main gauche l'équerre et de sa main droite le compas, symbolisant l'homme initié réalisé de la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez que derrière tout ça, il y a véritablement une intention. Et l'intention, elle est intelligente, elle est structurée. Nous en voyons que les effets qui parfois nous gênent, mais il y a une véritable profondeur structurelle derrière ce qui nous est proposé aujourd'hui comme modèle de société. C'est clair ?
Oui.
Oui. Dans la tradition alchimique, l'androgyne est un moment dans un processus. L'alchimie n'est pas seulement un art de fabriquer de l'or, exercé par des charlatans, c'est aussi une spéculation à caractère ésotérique visant à faire de l'homme un dieu sans dieu, en tout cas sans le dieu de la révélation. Pour les alchimistes, androgynie et pierre philosophale sont deux notions similaires en cela qu'elles expriment un principe d'unité, le principe premier dont tout le reste est alors extrait, l'alpha et l'oméga en quelque sorte. C'est d'ailleurs cet aspect d'unification que de principes fondamentalement opposés qui semble être l'aspect essentiel de ce concept d'androgyne divin. L'androgyne porte en lui la force nécessaire pour tenir l'équilibre du monde, car il maintient les opposés en son sein. Donc il est au-delà, précisément, de toute notion de dualité. Il existe dans la nature une force au moyen de laquelle un seul homme qui pourrait s'en emparer et saurait la diriger bouleverserait et changerait la face du monde. Le Moyen-Âge appelait la matière première du grand œuvre. Les gnostiques en faisaient le corps igné du Saint-Esprit. Et c'est lui qu'on adorait dans les rites secrets du Shabbat et du Temple sous la figure hiéroglyphique de Baphomet ou de bouc androgyne de Mendès. Cet agent universel pénètre toute chose. Il est un rayon détaché de la gloire du soleil. Le corps du Saint-Esprit que les anciens ont représenté sous la figure du serpent qui se mord la queue. L'éther électromagnétique, le calorique vital et lumineux figuré dans les anciens monuments par la ceinture d'Isis. Pardonnez-moi, nous sommes en plein langage occulte, ésotérique et tout ce que vous voudrez, parce que ce que je vous lis là est tiré de Eliphas Lévi, qui est perpétuellement réédité, Secret de la magie, dogme et rituel de haute magie, histoire de la magie et clé des grands mystères, qui sont des livres de chevet des grands initiés à l'occultisme et qui ne nous voyons pas, hein, habituellement, si vous voulez. Mais ils ont ce type de lecture-là. Nous sommes là dans des inversions d'une perfidie inouïe. Cette science de l'occulte permettrait à l'adepte de se servir de cet agent universel ou de cette énergie divine pour accueillir l'omniscience et omnipotence de l'esprit et de son contrôle sur les forces de la nature. Il y a véritablement une volonté transgressive de tout par rapport aux lois liées à la révélation, mais pour réaliser la plénitude de ses potentialités et de la science. Savoir s'emparer de cet agent, c'est être dépositaire de la puissance même de Dieu. Toute la magie réelle, affective, toute la vraie puissance occulte est là, et tous les livres de la vraie science n'ont d'autre but que de le démontrer. Quand j'ai dit cette phrase « l'omniscience et omnipotence de l'esprit et de son contrôle sur les forces de la nature », nous sommes référents à la papesse de l'occultisme et de la théosophie au XIXe siècle qui s'appelle Helena Blavatsky et que l'on retrouve comme par hasard dans Harry Potter sous le nom de Blavatsky. Donc, vous voyez bien que des ouvrages comme ceux d'Harry Potter donnés en pâture à nos enfants sont criblés et sous-tendus de tout un message ésotérique et occulte. Voici un extrait d'une planche réalisée par une sœur franc-maçonne sur l'androgénie. J'ai tiré ça d'Internet. Voilà. C'est actuel, hein. Alors vous savez ce que c'est qu'une planche, hein. On demande aux personnes qui sont entrées en franc-maçonnerie de faire une planche, c'est-à-dire un exposé sur un thème particulier. Elle l'a fait sur l'androgénie. Et voilà ce qu'elle dit, c'est un extrait, hein, bien entendu. Comprendre la notion d'androgyne, c'est d'abord accepter que l'androgyne est en chacun de nous. Plus ou moins caché derrière les conventions, l'éducation, les identifications multiples de l'existence. Accepter de voir clair en soi, de voir ses côtés féminins et masculins pas forcément très positifs, peut s'apparenter à l'œuvre au noir, que l'on retrouve en alchimie. C'est le moment où l'âme est face à elle-même, à ses démons intérieurs. Si nous choisissions l'androgyne pour aller plus loin, dépasser les oppositions et envisager une ère où nous pourrions penser autrement nos différences pour une nouvelle société. Et ça se termine toujours par « j'ai dit ». Comme si cette parole était la dernière parole d'autorité à laquelle il faudrait se référer. Comme le dit l'adage codé, le mâle devient femelle, la femelle devient mâle, pour former l'androgyne hermétique, suprême degré de l'initiation. Ainsi, le travail initiatique a pour but de permettre à l'adepte de réaliser l'intégration des contraires ou des polarités opposées. Il n'a plus besoin d'altérité, il devient lui-même comme Dieu. Cette conception d'un dieu bisexué et androgyne que l'on retrouve en Égypte ou dans d'autres civilisations anciennes et dans les différentes gnoses est étrangère à la révélation de Dieu dans les Écritures saintes, Ancien et Nouveau Testament. Et là, nous allons peut-être essayer de respirer un peu en reprenant ces quelques petites planches là où il y a quelques mots d'hébreu pour nous dire un peu en allant chercher dès le premier chapitre de la Genèse où Dieu dit, hein, c'est pas le j'ai dit de celle qui fait la planche, hein, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui a une parole créatrice et recréatrice. Et donc, vous voyez, hein, il y a une usurpation de cette parole à travers le j'ai dit qui termine la planche maçonnique. Voilà. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Homme et femme. Alors, on va essayer de scruter un tout petit peu, si vous voulez, hein, de faire une miette d'hébreu ce soir pour vous montrer comment est constitué l'homme qui se dit Ish en hébreu, hein, c'est en haut à gauche, et la femme Isha. Alors, vous voyez que dans Ish, vous avez le Aleph, alors ça se lit de droite à gauche. Hein, voilà. Aleph, Yod, qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu qui en est composé de 22. C'est un alphabet consonantique, il n'y a que des consonnes. Et le shin, donc vous voyez le shin qui est la dernière lettre que l'on voit vers à l'extrême gauche. Ish, c'est l'homme. Et vous avez en haut à droite Isha avec un aleph, un shin et un he. Voilà. Or, le nom de Dieu, c'est Yod He Vav He. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à Moïse. Je suis celui qui suis. Hein? Ou j'étais, je suis et je serai. Le nom de Dieu est le verbe être conjugué à tous les temps. Or, il se trouve que vous avez, pour commencer, le mot de Dieu, cette toute petite lettre qui est le yod. Hein? Et à chaque fois qu'une lettre, il y a un yod devant un mot en hébreu, comme Yeshua, ça veut dire que Dieu sauve. Hein? La première lettre, c'est le diminutif de Dieu, si l'on veut. Donc, vous voyez, vous avez cette même petite lettre dans Ish, l'homme. Et la deuxième lettre, c'est un He. Hein? Et c'est la lettre qui est spécifique à Isha. Donc les deux premières lettres de Dieu, vous avez ce qui spécifie l'homme comme lettre et ce qui spécifie la femme. Image et ressemblance de Dieu. Mais si vous retirez ce qui spécifie l'homme, c'est-à-dire le yod, et le he de la femme, vous avez hesh. Et hesh, c'est le feu. C'est-à-dire que si vous retirez ce qui, en l'homme et en la femme, est la ressemblance du nom de Dieu, vous aboutissez au feu. Et nous verrons tout à l'heure l'épisode de Sodome, qui se termine par le feu. Alors, vous avez ensuite, et c'est assez intéressant, Abraham. Et qui, après l'épisode du chêne de Mambré, retrouve un « hé ». Peut-être que ce patriarche avait une masculinité tellement forcée que finalement, il n'y avait plus de fécondité. Et puis Sarai, hein, elle avait un « yod ». Vous avez vu, Sarai avait un yod avant l'épisode du chêne de Mambré où il y a trois anges ou trois hommes qui viennent leur apparaître et ils annoncent que Moïse et Sarah allaient avoir un enfant, hein, et Sarah a ri. Mais elle a quitté son yod pour retrouver son hé. Vous voyez, elle a retrouvé toute sa féminité dans cet épisode-là. Donc vous voyez, chacun a récupéré d'une certaine manière un hé, et à l'intérieur même de nos noms, quelque chose porte l'identité profonde et d'une certaine manière la fécondité en Dieu. Nous sommes image et ressemblance de Dieu, homme et femme. Image, je vais en dire deux mots, image c'est simplement nos potentialités lié à l'intelligence, à la mémoire et à la volonté. Hein, mémoire, intelligence, volonté. Nous sommes image de Dieu par nos capacités, nos puissances, dirait saint Thomas d'Aquin. Et nous sommes ressemblance de Dieu dans la mesure où nous participons dans notre désir à la sainteté de Dieu par l'acquisition de sa grâce. Et nous sommes donc image et ressemblance de Dieu. Image en potentialité, ressemblance en désir de sainteté. Voilà. Alors, vous voyez que dans cette histoire de la Genèse, on retrouve encore, comme nous l'avions vu la dernière fois, le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs, que Dieu, le Seigneur Dieu, avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. » Donc voilà, je vais glisser sur cette histoire-là, mais vous voyez, je vais peut-être reprendre. Oui. Oui. Voilà. Donc le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et nous sommes là dans cette perspective aujourd'hui qui traverse notre histoire de l'humanité. Elle traverse notre histoire de l'humanité. Il y a quelque chose en nous qui a le désir de devenir Dieu sans Dieu. Et c'est un véritable combat qui se joue à travers l'histoire de l'humanité et qui prend, au fur et à mesure de l'avancement et du mûrissement du temps, eh bien peut-être une densité de plus en plus importante. Et vous voyez que la conséquence de cette connaissance, c'est alors leurs yeux à tous deux s'ouvrir, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se voient maintenant à travers cette matière du monde, ils ne se voient plus dans la gloire de Dieu, ils ne se voient plus comme image et ressemblance de Dieu. Ils ont perdu quelque chose de l'ordre de l'innocence, ils ne voient plus que cette matière du monde et ils ne voient plus la destinée de ce monde qui est de rentrer dans la gloire de Dieu, mais d'y rentrer par grâce, non pas en prenant le fruit, mais en recevant le fruit, et notamment le fruit du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie. Nous la recevons. Et c'est en cela que nous sommes divinisés, au lieu de vouloir chercher à prendre. C'est une véritable tension permanente qu'il y a à cet endroit-là. Et donc l'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur, parmi les arbres du jardin. Il se cache, un peu comme les enfants qui se cachent. Hein? Voilà. Et donc, il se cache. Et Dieu ne cesse de se rapprocher et de dire « Où es-tu ?» Et ça aussi, c'est toute la tension de la révélation où Dieu vient nous chercher. Et à travers toutes nos planques, il vient doucement. Les pas de Dieu sont dans le jardin, mais extrêmement délicats. Il n'est pas d'un pas pesant. Ce n'est pas un pas qui s'impose. C'est un pas d'une délicatesse extrême. Et pourtant, nous en avons peur. Où es-tu ? Alors, nous allons passer assez rapidement maintenant. Hein. C'est pour dire combien les fondements de l'anthropologie chrétienne sont sans cesse à explorer à la lumière de l'actualité la plus immédiate. Parce que vraiment, ce sont une lecture savoureuse et une lecture structurante. Et nous avons besoin de retrouver sans cesse ces structures qui nous font du bien, qui nous donnent la paix et qui nous redonnent aussi la joie. Et voilà encore un épisode, avec cet épisode de Sodome et Gomorre, avec les deux anges qui arrivèrent à Sodome le soir, la nuit. Lot était assis à la porte de Sodome. Il les aperçut, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Vous y passerez la nuit, vous vous laverez les pieds et vous vous leverez de bon matin. » pour reprendre votre route. Ils répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Et donc, vous savez que Lot accueille ces deux anges, ou ces deux hommes qui viennent, et que, précisément, le peuple de Sodome veut venir les rencontrer pour les abuser. « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les. Nous voulons nous unir à eux. » Il y a donc cette volonté transgressive de vouloir s'unir à eux, à des hommes. Et d'une certaine manière, dans l'exégèse rabbinique, c'est très intéressant de voir comment certains rabbins interprètent ça. Ils disent, en fait, c'est la négation de vouloir accueillir l'autre ou l'étranger. D'une certaine manière, c'est une négation de vouloir accueillir la différence, finalement l'altérité. Ce qui ne me ressemble pas, je vais plutôt abuser d'une relation fusionnelle plutôt que d'être dans une relation distanciée qui me permet de respecter l'autre et finalement de me respecter moi-même. Mais cette volonté fusionnelle est aussi une volonté confusionnelle qui est absolument une régression. Au lieu d'exister chacun personnellement dans son identité sexuée et dans sa finitude, nous retrouvons un tohu-vav-bohu originel où tout est mélangé et où l'on croit précisément avoir acquis la connaissance suprême. Voilà. Mais à ces hommes, ne faites rien, ils sont venus s'abriter sous mon toit, ils répliquèrent, ôte-toi de là, et ils ajoutèrent, lui, le seul étranger, il voudrait juger, à toi nous ferons plus de mal qu'à eux. Vous voyez, Lot était un étranger aussi dans cette ville de Sodome. Et la conséquence, on va pas lire tout le passage, bien entendu, c'est finalement que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre une pluie de soufre et de feu venant de Dieu. Et vous voyez combien ces quelques petites bribes d'hébreu nous donnent tout ce sens à ce feu qui détruit finalement quand chacun n'est pas bien situé dans son identité. Voilà. Alors, je voudrais peut-être que l'on termine pour qu'on puisse avoir quelques échanges par la dernière lettre du Nouveau Testament avant l'Apocalypse. C'est assez curieux que cette lettre soit placée juste avant l'Apocalypse. Alors, on ne va pas la lire in extenso, mais certains passages qui, alors, sont absolument, mais absolument aujourd'hui, politiquement, mais totalement incorrects. Hein. On se demande si dans quelque temps la Bible ne sera pas expurgée de ces passages-là tellement ils sont provocants. Eh bien, on va quand même essayer de les lire. Car il s'est infiltré parmi vous des individus qui sont marqués depuis longtemps en vue de ce jugement, des impies qui tournent la grâce de notre Dieu en prétexte à la débauche et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Avant, cette lettre nous invitait à la miséricorde, à la paix, à l'amour, pour que cette miséricorde, cette paix et cet amour nous soient accordés en abondance. Bien-aimé, j'avais la ferme intention de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, or me voici dans l'obligation de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux fidèles une fois pour toutes. Il s'agit véritablement d'un combat, d'un véritable combat spirituel où nous avons des choix à faire. Non pas des choix qui soient violents, mais des choix qui soient clairement identifiés. Alors, il rappelle cette lettre de Jude, il en va de même pour Sodome et Gomorre et les villes d'alentour. Elles s'étaient livrées à la prostitution d'une manière semblable à ces anges-là. Elles étaient allées avec des êtres d'une autre nature. Elles sont soumises pour l'exemple au châtiment du feu éternel. Et pourtant, ces coureurs de songes font la même chose. Ils souillent la chair. Ils méprisent la seigneurie du Seigneur, ils outragent les anges appelés gloire. Eux, au contraire, je ne lis que ce qui est en gras, eux, au contraire, tout ce qu'ils ne connaissent pas, ils l'outragent. Et tout ce qu'ils savent, les corrompt, car ils ne le saisissent que par l'instinct, comme des bêtes, privés de raison. Ces individus sont une souillure pour vos repas fraternels. Ils font bonbons sans pudeur. Ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Nuages sans eau emportés par le vent. Arbres de fin d'automne sans fruits, deux fois morts,